7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, eh bien, nous aurons la, la chronique de Benjamin Blanchard et peut-être celle de Raphaël Emma qui pour l'instant n'est pas présent. Mais tout de suite, eh bien, on va retrouver, comme tous les jeudis, Jean Messia.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ligne droite, l'analyse.
Et en attendant que Jean Messia se connecte, voilà, je vais quand même, les sujets qu'on allait traiter, c'était d'abord cette première question. Eh bien, on n'en a pas parlé beaucoup, je crois, à l'antenne, mais de cet ambassadeur américain qui a refusé, eh bien, de venir à la convocation de Jean-Noël Barrot, ce qui dit quand même beaucoup du poids de la parole de Jean-Noël Barrot. Possible que nous parlions aussi, eh bien, du sujet de l'euthanasie et enfin les conséquences de l'affaire Quentin sur l'aspect électoral. Voilà, je vois que Jean Messia est sur le point de nous rejoindre. Merci à tous les auditeurs qui sont là ce matin de nous suivre. Je rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et sur X. Ça a l'avantage non négligeable qu'on peut lire vos commentaires dans le chat et puis voilà, faire en sorte de pouvoir y répondre à vos questions parfois. Mais tout de suite, nous retrouvons Jean Messia. Bonjour Jean Messia.
Oui, bonjour Alexandre, bonjour Liselotte.
Non, c'est pas Liselotte qui est avec moi, mais je comprends la confusion. Il s'agit de Magda d'Hautefeuille,
qui
est notre... évidemment, mais Liselotte va très bien.
Alors, ce sont les aléas du Zoom, et puis avec l'âge, on
exactement,
perd de la vue.
Vous êtes trop loin de nous, Jean Messia.
Voilà, c'est ça.
Alors, le premier sujet que vous vouliez traiter, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé ici sur Ligne Droite, ou alors je ne l'ai pas vu, mais c'est qu'il y a eu un incident diplomatique entre les États-Unis et la France. L'ambassadeur américain, M. Kouchner, a refusé de se rendre à l'appel de Jean-Noël Barrot. Qu'est-ce que ça dit du poids de la parole de Jean-Noël Barrot, Jean Messia ?
Bah, qu'est-ce que ça dit surtout du poids de la France ? Parce que Jean-Noël Barrot... faut-il le rappeler, est le ministre des Affaires étrangères de la République française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour ceux qui sont familiers des relations diplomatiques, lorsqu'un ministre des Affaires étrangères convoque un ambassadeur en poste dans son pays, il y a deux choses qui jouent. Il y a d'abord, évidemment, la différence de grade. Un ministre des Affaires étrangères est plus important qu'un ambassadeur. Donc, en principe, l'ambassadeur doit se conformer, se déférer à cette convocation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'ambassadeur étranger étant dans un pays hôte, dans un pays d'accueil, il est un peu étonnant, voire choquant, qu'un ambassadeur dans un pays d'accueil ne réponde pas à la demande de consultation formulée officiellement par le ministre des Affaires étrangères du pays qui l'accueille. Mmh. Donc il y a deux bizarreries. Si on ajoute à cela le fait que, en principe, la France et les États-Unis sont quand même censés être dans le même camp, que ce sont des pays non seulement alliés, mais supposés amis, je veux dire, cet incident prend des proportions assez importante et même assez grave. Alors, qu'est-ce qui se joue, en fait, derrière ça ? Tout est parti, je rappelle, d'un tweet de l'ambassadeur américain qui se dit préoccupé par la violence d'extrême-gauche en France et qui affirme que ceux qui ont tué Quentin doivent être arrêtés et jugés. Enfin, il exprime le souhait qu'ils le soient.
Oui, alors ce qui est assez étonnant, c'est que...
Rien de bien choquant.
Oui, voilà, ce qui est assez étonnant, c'est que, bon, ça reste l'idée de quand même parler des affaires intérieures du pays, ce qui est quand même peu élégant, on peut l'admettre, de la part d'un ambassadeur plus précisément. Mais on peut aussi se rappeler du message de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui disait il y a environ 10 jours, enfin après la mort de Quentin, qu'elle était choquée par cette terrible mort et qu'elle apportait son soutien aux proches de Quentin et que finalement, elle expliquait que cette violence d'extrême gauche était insoutenable et que, comme toute la violence politique, de quelque manière que ce soit, donc c'est un message pour le coup assez neutre. Et de la même façon, Emmanuel Macron a réagi d'une manière tout à fait ahurissante. en expliquant que Giorgia Meloni n'avait qu'à pas se mêler de ses affaires. C'est quelque chose qui a été très mal pris par l'état-major italien.
Ben, c'est parce que, si vous voulez, ce qu'il y a de gênant dans cette histoire, c'est qu'en réalité, Macron s'en cogne des morts français. Macron s'en cogne des victimes françaises. Il préfère réserver ses larmes et sa compassion à tout ce qui n'est pas français, voire aux ennemis de la France. Voilà. Et donc, voir que d'autres pays occidentaux, eux, sont plutôt dans une proximité affective avec ce qui leur ressemble, c'est-à-dire qu'avec un jeune comme Quentin, ça vient lui rappeler son côté hors sol, son côté hors de France à Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que est-on bien sûr qu'Emmanuel Macron aurait réagi de la même manière si le gouvernement américain de l'époque ou le gouvernement italien de l'époque avaient manifesté respectivement leur sympathie pour Naël ou pour Traoré? Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait dit de quoi se mêle-t-il? Non, au contraire, participer à la douleur d'Emmanuel Macron sur toutes les causes qui ne sont pas françaises, ça, évidemment, ça aurait eu, il aurait là souligné la noblesse de cœur, il n'aurait pas eu de superlatif et de mots assez forts pour souligner la solidarité occidentale. Mais comprenez, comme la souffrance française et la douleur française sont criminalisées et sont interdites, évidemment que lorsque vous avez des nations étrangères qui y participent, bah là, Macron, il n'est pas heureux.
Mais après, on pourrait quand même... je me fais l'avocat du diable, donc d'Emmanuel Macron, mais d'une certaine façon, Emmanuel Macron s'est quand même exprimé sur ce sujet en expliquant que cette violence et cette mort, d'ailleurs, étaient inacceptables. Il y a eu cette minute de silence à l'Assemblée nationale, qui est quand même quelque chose, pardon, mais auquel personne dans le camp national ne s'attendait. C'est-à-dire que il y a le banc de Pivet autorise une minute de silence pour Quentin. C'est quand même quelque chose de particulièrement... surprenant dans le bon sens, il faut dire aussi quand il y a des choses bien qui arrivent. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, dans un premier temps, se montre visiblement plutôt solidaire des Français et à l'international, pour le coup, n'a pas de problème à les pourrir?
Parce que je pense, si vous voulez, que ce qui se joue, Quentin, si vous voulez, c'est un peu le symbole de l'antagonisme que j'ai déjà à de multiples reprises expliqué avant trentaine, de cet antagonisme entre les deux paradigmes opposés, celui qui est incarné en France par Emmanuel Macron, qui est le paradigme finissant, le paradigme gaucho-progressiste, euromondialiste, qui est en train de décliner, qui connaît ses dernières lueurs crépusculaires, et le nouveau paradigme que j'appelle le paradigme identitaro-souverainiste, qui est en montée partout, qui est déjà au pouvoir en Italie et aux États-Unis. Et donc, en fait, ce qui se joue, si vous voulez, derrière le symbole de Quentin, c'est effectivement cette opposition, cette guerre larvée entre deux idéologies radicalement opposées. Et d'ailleurs, écoutez les mots de Jean-Noël Barrot. Quand Jean-Noël Barrot, à l'occasion justement de l'émotion de l'ambassadeur américain autour du meurtre de Quentin, vous parle d'international réactionnaire. Ce sont ces mots. Je veux dire, moi j'ai été, pour ne rien vous cacher, plus choqué par le fait que Jean-Noël Barrot utilise le terme d'international réactionnaire pour qualifier les États-Unis, qualifier l'Italie, davantage que par l'émotion publiquement exprimée de l'ambassadeur américain vis-à-vis du meurtre de Quentin. Parce que finalement, dans l'émotion de l'ambassadeur américain, il n'y a pas d'insulte. Alors que dans la manière dont Jean-Noël Barrot qualifie nos alliés, c'est insultant. Réactionnaire par rapport à qui? Par rapport à quoi? Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron, il est pris là-dedans. Il est pris entre un pays qui pleure de plus en plus ses morts, parce qu'on a davantage pleuré Quentin qu'on a pleuré des morts précédents, parce que les gens commencent bien à sentir qu'il y a un problème autour de l'idée, à l'idée d'être affligé par une souffrance française. Donc les gens l'expriment, ils l'expriment dans la rue, etc. Donc Emmanuel Macron ne peut pas être resté au moins politiquement insensible à cela, mais en même temps, c'est complètement opposé à l'idéologie et au paradigme qu'il anime et qui pour le coup le pousse à pleurer des Naël, des Traoré, mais certainement pas des Théo, des Elias ou des Quentin. Voilà, donc Emmanuel Macron est pris entre deux feux, et ce que vous soulignez n'est rien d'autre que le va-et-vient, l'hésitation oui. d'un président un petit peu dérouté par ce qui se passe.
Et alors, bon, évidemment, maintenant qu'on parle de pardon, de Quentin Jean Messiaen, vous vouliez parler des conséquences électorales, quelque part, de la mort de Quentin. Alors, c'est quand même toujours difficile de parler de ces sujets un petit peu à froid, seulement 2 semaines après la mort de Quentin, mais enfin, force est de constater qu'il y aura des conséquences.
Bah, si vous voulez, vous voyez bien que la mort de Quentin a suscité une vague d'émotion et de colère dans le pays jamais ressentie auparavant. Dieu sait que la France a pleuré de nombreux morts tombés sous les coups de certaines immigrations arabo-afro-islamiques ces derniers temps. Jamais leur mort n'a suscité autant d'émoi, même si on peut quand même constater que l'émoi autour de ces morts est croissant depuis un certain nombre d'années. Bon, parce que les gens commencent à éprouver une certaine lassitude, une certaine colère par rapport à la multiplication de ces faits divers qui deviennent des faits systémiques et où c'est toujours la même configuration, c'est-à-dire des Français de souche ou assimilés qui tombent sous le coup de certaines immigrations dont d'ailleurs, nombreuses fois, ce sont des UQTF ou des clandestins. Mais là, si vous voulez, avec le meurtre de Quentin, on arrive à un tournant, c'est-à-dire que pour la première fois depuis extrêmement longtemps, peut-être des décennies, un Français tombe sous le coup d'autres Français. C'est-à-dire que c'est un meurtre politique. Et donc évidemment, qui dit meurtre politique dit conséquences politiques. C'est l'extrême gauche, les milices d'extrême gauche qui, alliées d'une certaine façon, ou même de toutes les façons, à un parti politique massivement représenté à l'Assemblée nationale, qui tue un jeune innocent au casier judiciaire vierge, qui n'avait rien demandé à personne, simplement parce qu'il a eu le malheur, non seulement de penser différemment de l'extrême gauche, mais de croiser leur route. Voilà ce qui s'est passé. Alors, il faut évidemment écraser cette caisse de résonance totalement ridicule de ces médias vendus et de ces politicards tout aussi vendus qui ne cessent de tambouriner depuis 2 semaines qu'il y a des cortèges et des défilés aux flambeaux nazis dans toute la France avec des croix gammées qui se déploient partout. Enfin, ces gens sont soit des menteurs comme des arracheurs de dents, soit des malades mentaux. Soit ils voient une réalité où ils vivent dans un autre pays ou à une autre époque qui ne sont pas les nôtres. Parce que moi, personne ne voit des défilés nazis à part ces malades mentaux-là. Bon, et donc si vous voulez, à partir du moment où c'est politique, moi je dis que la mort de Quentin a en réalité fait tomber les masques. C'est-à-dire que tous ceux qui refusent de pleurer la mort de Quentin comme la mort d'un innocent, tous ceux qui cherchent à noircir la mémoire de Quentin, à salir la mémoire de Quentin, eh bien ce sont tous les traîtres à la France qui, à divers degrés, gouvernent la France depuis 50 ans. Oui. Nous avons plusieurs nuances de collaborationnisme et d'ennemis de la France qui s'expriment à l'occasion de la mort de Quentin pour en salir la mémoire. Alors, ça va du macronisme, qui est le ventre fécond, si vous voulez, du modèle antinational qui nous dirige, puis à la gauche, puis à LFI, puis aux milices antifa. J'avais expliqué dans ma chronique de la semaine dernière que tout ça, ce n'était que les maillons d'une même chaîne. Le système ayant besoin de ces milices antifa pour contrecarrer les élections si jamais les élections ne lui donnaient pas satisfaction, c'est-à-dire si le camp national l'emportait. Et donc, moi je dis aux Français, pour les prochaines élections municipales, il va falloir le choix est très clair. Il est entre ceux qui veulent que la France reste la France, ceux qui défendent la France, et les traîtres à la France, qui vont du macronisme jusqu'au LFI.
Oui, mais Jean Messia, pardon, mais ça a toujours été le cas, ça. En l'occurrence, c'est surtout que là, la mort de Quentin révèle aussi la violence absolue de l'extrême-gauche, ce qui fait que, justement, ça peut-être décourager certains de voter pour cette même extrême-gauche.
Oui, c'est évident. Je veux dire, évidemment que la gauche, elle joue sur les termes. Il y a quand même une arnaque de la sémantique qui est généralisée d'ailleurs, parce que on parlera tout à l'heure de la fin de vie. Il y a des arnaques sémantiques. La gauche est devenue une arnaque sémantique. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont historiquement de gauche continuent à voter à gauche en pensant que le curseur de la gauche s'est arrêté à la gauche des années 70, des années 80, qui était encore une gauche un peu républicaine, un peu française, un peu défenseur des droits sociaux, des droits des ouvriers français. Bon, à la faveur de ce crime, bah, il faut qu'il se dessille en quelque sorte et qu'il, comment dirais-je, voit la gauche telle qu'elle est devenue, c'est-à-dire une gauche qui a trahi ses idéaux républicains, une gauche qui a trahi la France, une gauche qui s'est racialisée et qui, comment dirais-je, est devenue un supplétif du mondialisme antinational pour remplacer et islamiser le pays. Voilà. Donc la mort de Quentin doit normalement les aider à écarquiller les yeux, à se réveiller de leur torpeur et à se dessiller par rapport à la véritable nature de la gauche aujourd'hui.
Et donc, d'une certaine façon, là, aujourd'hui, on voit quand même, Jean Messier, une montée des tensions formidables, même de la part de, et je le dis sans jugement, hein, mais de la part de l'extrême droite aussi, qui est évidemment très tendue par la mort d'un jeune nationaliste. Quand je dis extrême droite, c'est, on va dire, c'est plus à droite que le RN et Reconquête, c'est ça que je veux dire. Mais d'une certaine façon, il y a un climat de tension. Est-ce que, selon vous, on pourrait arriver dans un climat de guérilla, de guérilla politique, de violence entre extrêmes et une montée des tensions est-ce que, selon vous, ça va empirer ou, au contraire, est-ce que la mort de Quentin a échaudé tout le monde et que le niveau va redescendre ?
Alors que le niveau va redescendre, non. Donc la mort de Quentin ne va certainement pas échauder tout le monde. D'ailleurs, à commencer par l'extrême gauche et les antifas eux-mêmes, puisqu'ils s'imaginent avoir tué un nazi. Donc quand on tue un nazi, on n'est pas échaudé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que… Moi, je refuse, si vous voulez, ce prisme idéologique déformant qui consiste à mettre un signe d'égalité entre les groupes d'extrême droite et les groupes d'extrême gauche. D'abord, les groupes d'extrême droite, pour moi, ils sont epsilonesques. Moi, je ne les vois pas, si vous voulez.
Quentin, en l'occurrence, et c'est encore une fois, je dis ça sans aucun jugement, hein, mais était membre de groupes d'extrême droite. Et oui, ce sont des groupes qui sont pas, on va dire, qui ont certainement pas autant d'impact que la Jeune Garde, ou en tout cas que des gros mouvements d'extrême gauche comme on peut les connaître, comme Révolution Permanente ou d'autres. Mais ils existent, ils maillent un petit peu tout le territoire. Ce sont les identitaires, ce sont d'ailleurs, on va souvent couvrir leurs actions pour les lignes droites. Donc si, dans le fond, ils existent, Jean Messia.
Attendez, moi je vous parle de groupuscules ultra-violents qui ont fait du coup de poing le dialogue. Donc excusez-moi, les antifas, c'est des gens qui sont dont l'existence est faite pour cogner. C'est leur unique objectif, cogner pour, comment dirais-je, terrasser, terrifier les adversaires, commençant par la gauche de l'extrême-gauche. Donc je ne crois pas, si vous voulez, qu'à droite, nous ayons des milliers ou des dizaines de milliers de black blocs d'ultra-droite ou d'antifa d'extrême-droite. Ou de fa d'extrême droite plutôt, je ne crois pas. Alors vous avez parlé d'un certain nombre d'associations, d'organisations qui font effectivement des happenings et des choses comme ça, mais je ne crois pas qu'ils aient jamais tué quelqu'un, je ne crois pas qu'ils aient jamais usé d'une violence physique ou de destruction de matériel, etc. Donc pour moi, ces gens ne sont pas des groupes d'extrême droite équivalents à ce que seraient les groupes antifa et les groupes d'extrême gauche.
Et alors, Jean Messia, qu'est-ce que vous répondez à ces militants, donc souvent de gauche, qui se font passer pour, qui se déguisent en chercheurs du CNRS pour aller sur les plateaux du service public et qui expliquent que 90% des morts politiques de ces 20 dernières années sont liées à l'extrême droite?
C'est entièrement faux. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellente intervention du journaliste du Figaro, Paul Sugy, qui les a tous remis à leur place en disant que, parce que bon, c'est vrai que l'extrême-gauche, ces derniers jours, là, depuis la mort de Quentin, ne cesse de balancer des chiffres. Alors, eux qui sont tellement sourcilieux quand il s'agit de citer les chiffres montrant le lien entre certaines immigrations et délinquance et criminalité, et qui pour le coup est quelque chose d'évident, qui vous disent « mais les statistiques ethniques n'existent pas, d'où vous tenez vos chiffres, nous on est des gens sérieux, il faut étayer vos assertions avec des illustrations chiffrées, etc. » Là, ils se dispensent, dès que ça doit aller dans leur sens, ils se dispensent de toute forme de discipline, comment dirais-je, statistique, de toute forme de discipline des sources, et ils vous balancent des chiffres à tout va. Alors, il y en a un qui parle de 12 morts de l'extrême droite, l'autre de 20 morts, le troisième de 10 morts, et on ne sait pas d'où sortent ces chiffres. Et gare à vous si vous leur demandez quelles sont leurs sources, parce que comme ils sont de gauche, évidemment, ils n'ont pas besoin d'avoir des sources, ils ont raison à chaque fois qu'ils balancent quoi que ce soit. Ces chiffres sont évidemment faux, puisque, comme le démontrait Paul Sugy, ils mettent sur le dos de l'extrême droite des morts qui n'ont en réalité rien à voir avec des organisations constituées dont les assassins seraient des membres.
Oui.
Voyez, donc c'est pas. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui tue son voisin parce que non pas parce qu'il est maghrébin, mais parce que il y a une querelle de voisinage. La gauche va mettre ça sur le camp de l'extrême droite. Mais il faut, quand on compare, si vous voulez, il faut un parallélisme des formes. Lorsqu'on compare les morts de l'extrême gauche organisée et les Antifa organisés et les Black Blocs organisés ont blessé des centaines de policiers, ils viennent de tuer Quentin, ils ont à leur actif des violences physiques qui ont conduit à la mort, qui sont répertoriées et qui sont, comment dirais-je, identifiées de par ces organisations et l'appartenance des criminels à ces associations et à ces organisations, ils sont identifiés comme des crimes d'extrême-gauche. Mmh. À la droite, il n'y a pas de membres d'organisations d'ultra-droite revendiquées comme telles qui ont tué ou qui ont assassiné. Donc
oui, c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur le même plan. On vous rejoint tout à fait là-dessus. Jean Messia, Bagdad Hautefeuille.
Mais justement, en parlant du fait que nous, on n'a pas de groupe ultra-violent, la Jeune Garde était censée être dissoute depuis juin dernier, et depuis le meurtre de Quentin, l'État s'étonne que la Jeune Garde en fait soit potentiellement reconstituée. Enfin. Justement, à ce sujet, est-ce que l'État s'en est rendu, enfin, fait semblant en tout cas de s'en rendre compte, soit parce qu'un militant a été assassiné, enfin, a été tué, ou justement, enfin, en fait, ils étaient largement au courant, donc, enfin, comment dire, en fait, ces groupes existent, quoi, ils le savent, mais ils sont soi-disant dissous, donc ils agissent en toute.
Mais vous voyez bien, Bagdad, le gouvernement, il y a quand même un traitement à géométrie variable.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr.
Dans ce que le gouvernement appelle des groupes ultra-violents. Enfin, c'est quand même pas banal qu'au lendemain de la mort de Quentin, la seule chose qui vient à l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est de dissoudre deux associations identitaires.
Et maintenant, on parle de la dissolution du collectif Némésis.
Enfin, oui, c'est ça, sens inverse.
Donc, si vous voulez, c'est pour ça, si vous voulez, que moi, je doute fort de l'inimitié, de l'adversité affichée par le gouvernement se dit profondément choqué par l'action des groupes d'ultra-gauche qu'il ne nomme d'ailleurs assez peu souvent tout seul. Hein.
Jean-Messia,
violent pour noyer le poisson, mais ne parle jamais de groupe.
Et Emmanuel Macron se fait traiter de fasciste par les Antifa, comment vous expliquez ça alors?
Ah ben parce que si vous voulez, alors sans doute, mais est-ce que Emmanuel Macron traite les Antifa de fa? Est-ce qu'Emmanuel Macron a un traitement, on va dire, exorbitant du droit commun vis-à-vis des organisations d'extrême-gauche? Vous voyez bien que les mots ont un sens. Quand il parle de ces organisations d'ultra-gauche, il ne les cite quasiment jamais, comme je disais il y a un instant. Il parle de groupes ultra-violents, il parle de groupes à droite, à gauche, tout ça pour noyer le poisson, mais il refuse en quelque sorte de donner aux groupes de l'ultra-gauche le relief qui est le leur dans la réalité, dans les mots. Voilà. Donc, évidemment que quand on dit les groupes ultra-violents, tout le monde s'imagine que vous avez des défilés nazis d'un côté et des défilés rouges de l'autre et que quand ils se rencontrent, ils s'entretuent. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des groupes d'ultra-gauche et de black blocs où il y a des milliers de personnes qui en sont membres, qui sont prêts à en découdre, qui sont organisés pour orchestrer la violence. Et de l'autre, vous avez des groupes. Moi, je ne dis pas d'extrême droite, c'est des groupes de résistants français à ce qu'on cherche à imposer à la France en termes d'immigration de masse, d'islamisation, etc., qui ont des actions qui sont symboliques, qui ont des actions qui sont non violentes. Enfin, excusez-moi, quand les identitaires avaient été défilés au col des Alpes pour interdire les immigrés de passer, on avait quasiment envoyé l'armée pour les arrêter. Enfin, combien de divisions ou de régiments ou de compagnies de CRS a-t-on envoyé pour bloquer les Black Blocs, dont on voit qu'ils sont quand même laissés en liberté, cassés, etc., qui, lorsqu'ils sont arrêtés, sont déférés devant un juge, ou soit sont libérés avant, et quand ils sont déférés devant un juge, comme la loi anti-casseurs n'existe pas, les juges se cachent derrière ça et vous disent, bon, on ne sait pas qui a fait quoi, ils sont libres le lendemain. Je ne pense pas que les groupes, les identitaires, qui pour le coup, on a réussi parfaitement à les identifier, bien qu'ils étaient en groupe, et on a parfaitement réussi à les identifier, parfaitement réussi à les arrêter, parfaitement réussi à les condamner. Ça, la main de la justice et du soi-disant état de droit n'a pas tremblé, là. Par contre, quand il s'agit des groupes d'extrême-gauche, il y a une forme de mansuétude, de mièvrerie, pour ne pas dire de couardise et de lâcheté, de la part de l'état de droit à l'égard de ces groupes. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, ces groupes sont en réalité partie intégrante du système. Alors, le système fait semblant de se pincer le nez en disant « on ne sait pas qui c'est », etc. Mais la réalité, c'est que le système sait très bien qu'un jour, il perdra le pouvoir par les urnes. Un jour, l'avatar de Macron ne sera pas élu, on élira un représentant du camp national et le système sera bien content de pouvoir compter sur ses antifas pour organiser la violence dans la rue afin de ne pas lâcher le pouvoir et de dire « attendez, la situation de violence est telle qu'on ne peut pas admettre le résultat des urnes ». D'ailleurs, Mathilde Panot ne s'en cache pas dans ses dernières déclarations. Elle a dit que si jamais l'extrême droite arrivait au pouvoir par les urnes, enfin arrivait au pouvoir légalement, elle a dit… Eh bien, nous ne reconnaîtrions pas les résultats de ce scrutin. C'est quand même particulièrement grave. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, nous gardons les antifas sous le bras pour que si jamais le camp national arrive au pouvoir, c'est-à-dire que les urnes ne donnent pas le résultat qu'ils attendent, eh bien, les antifas, les Black Blocs, etc., seront lâchés dans les rues pour tuer du nazi. Et il orchestrera comme ça une violence dans la rue dont ils pourront se prévaloir, peut-être aller jusqu'à l'article 16, aller savoir, on ne sait pas.
Merci. Alors, Jean Messia, il nous reste encore une dizaine de minutes. Je rappelle simplement à nos auditeurs que nous sommes avec vous pour parler de cette affaire Quentin et de ses conséquences. Dans quelques minutes, donc, la chronique de L'Orient simplifié de Benjamin Blanchard. Et puis à 9h30, ce sera la revue de presse de Gilles Brochard. Je vous passe la main, Magda.
Alors, moi, le point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on parle de groupes ultra-violents de gauche, des Black Blocs, des Antifa. Mais en fait, est-ce que ce serait pas la gauche tout court qui serait lâche, qui justifie la mort de Quentin, qui défend ses Antifa, plutôt qu'à chaque fois parler d'extrême gauche ? En fait, pourquoi on parle pas tout simplement de la gauche, en fait, qui prend. Parce que toute la gauche prend la défense des Antifa.
Ah, parce que vous savez, ils prennent. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe à gauche, ils prennent des pincettes pour séparer, pour essayer d'épouiller le réel et de séparer bien l'extrémité la plus violente de la gauche et le reste de la gauche qui, malgré le soutien tacite, voire explicite que la gauche peut donner à ces groupuscules, ils font une espèce de barrière étanche entre les deux. Vous noterez que quand il s'agit d'une violence de la droite, on va chercher immédiatement si le type qui a commis ça n'a pas été membre du Rassemblement National ou de Reconquête pour essayer de foutre tout le monde dans le même fat. C'est des exercices totalement différents. C'est un traitement idéologique de la réalité qui est totalement différent. C'est-à-dire que quand un mec de droite intuitu personné, c'est-à-dire sans qu'il soit membre de quoi que ce soit, mais juste parce qu'on lui trouve une attache de droite, c'est toute la droite qui est incriminée, alors que lorsque vous avez des antifas qui sont attachés parlementaires d'un parti, lui-même allié d'autres partis de gauche, ça n'a rien à voir.
Oui. Non, mais même, et d'ailleurs, ce qui est fascinant, Jean Messia, c'est que même, par exemple, des terroristes d'extrême droite qui vont, par exemple, comme Brenton Tarrant ou Anders Breivik, donc, qui sont à des milliers de kilomètres de la France, a priori, l'un au fin fond de la Norvège, l'autre en Nouvelle-Zélande, l'autre aux États-Unis et je ne sais où, finalement, parce que X avait soutenu Y un jour en 2011, ça y est, il faut mettre toute la droite à partir d'Olivier Faure dans le camp des meurtriers anti-immigration. Et puis de l'autre côté, effectivement, comme vous le dites, Raphaël Arnaud est quand même est quand même le fondateur de la Jeune Garde, mais Raphaël Arnaud n'a rien à voir avec Raphaël Arnaud.
Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et autre chose, quand l'assassin de Christchurch, vous savez, celui qui avait commis un massacre dans une mosquée en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, il avait, je crois, un manuscrit dans son sac à dos qui mentionnait Renaud Camus.
Non, il ne mentionnait pas Renaud Camus. Il mentionnait le terme grand remplacement, mais il ne mentionnait même pas Renaud Camus.
Je suis même moi-même pollué par la manière dont les faits, c'est dire. Donc, et là, évidemment, quand on a vu le terme grand remplacement, c'est Renaud Camus, donc c'est aussi le Rassemblement National, donc c'est aussi toute la droite. Les mêmes qui, lorsque un terroriste islamique porte un Coran dans son sac à dos, ils vous disent que ça n'a rien à voir avec l'islam.
Oui, c'est effectivement assez fascinant ce je vais pas mourir cette manière de faire les liens. D'un autre côté, ce qui est assez étonnant dans cette espèce de récit médiatique, c'est que la gauche est accusée. Vite, faut attaquer l'extrême droite. C'est-à-dire que, la droite, j'utilise beaucoup le terme extrême droite ce matin, mais d'un coup, on se sent assiégé. Vite, il faut dissoudre Némésis et deux associations identitaires. Comment vous expliquez cette espèce de retour de bâton qui est amené sur tous les plateaux de télévision qui sont désormais qui pullulent d'insoumis et d'universitaires du CNRS?
Pour une raison simple, c'est que, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, il n'y a pas d'extrême droite en France. L'extrême droite en France n'existe pas. L'extrême droite est une invention sémantique de la gauche. En gros, l'extrême droite, c'est un fantasme d'extrême gauche, pour dire les choses clairement. Voilà. Il n'y a pas d'extrême droite en France. L'extrême droite, être d'extrême droite aujourd'hui en France, c'est juste être français et vouloir le rester. Être islamophobe, c'est juste refuser que son pays devienne musulman. Et être raciste, c'est juste refuser que son pays devienne africain. Donc évidemment, quand je dis ça, ça fait que tous les gens qui refusent ce triptyque d'islamisation, d'invasion et qui veulent français en fait d'eux des résistants. Voilà. Oui. Et ils sont traités comme naguère, alors toute proportion gardée, évidemment, parce que comme disait Goethe, les faits de l'histoire ne sont jamais totalement analogues, mais sont souvent homologues. Ils sont traités symboliquement de la même manière que les résistants français à travers l'histoire. C'est-à-dire que on les criminalise, parce que quand vous traitez quelqu'un d'extrême droite, le terme est infamant. Quand vous traitez quelqu'un d'islamophobe ou de raciste, c'est infamant. Mmh. Donc c'est une manière de criminaliser toute forme de résistance à l'invasion et à l'islamisation. Donc comme nous avons un système quand même dont l'islamisation et l'invasion ne sont pas un problème, mais c'est un projet, ils vont évidemment chercher à abattre symboliquement tous ceux qui s'opposent à ce projet, qui deviennent des nazis, des extrémistes, des racistes, des haineux, etc. Voilà. Donc, il y a bien, si vous voulez, des néo-collaborationnistes qui s'opposent à des néo-résistants face à un totalitarisme islamo-gauchiste qui veut prendre le pouvoir et ne jamais le lâcher.
Mmh. Et alors, quand même, décidément, Jean Messier, maintenant, je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Il nous reste 5 minutes. C'est, vous êtes toujours, évidemment, membre du parti Reconquête, même vous êtes candidat dans la ville d'Évreux, je le rappelle.
Tout à fait.
Le traitement par Reconquête de... alors, on a déjà parlé amplement aujourd'hui du Rassemblement National, hein, donc pas la peine de revenir dessus, mais le traitement de ce sujet par Reconquête a semblé à une partie du camp national assez léger de la mort de Quentin. C'est-à-dire, on a l'impression que il y avait eu comme une envie de pas trop en faire non plus sur ce domaine.
Alors, c'est faux. En tout cas, en ce qui concerne Reconquête, nous avons été pleinement associés aux Marches Blanches, puisque le président de Reconquête en personne, Éric Zemmour, s'est rendu à l'hommage qui lui était rendu place de la Sorbonne. Vous avez compté place de la Sorbonne, combien de députés ou de cadres du Rassemblement National?
Il y en avait une dizaine. Sorbonne,
je ne parle, oui. parle pas de Lyon. En tout cas, consigne, oui, mais ils étaient là à titre personnel. Reconquête, nous avons eu des instructions d'y aller quand c'était possible. Mmh. Alors que le Rassemblement National, lui, a reçu instruction de s'abstenir. Mmh. Bon, pas du tout. Nous sommes du côté de ceux qui pleurent Quentin, parce que nous pleurons Quentin, nous comprenons qu'il faille pleurer Quentin. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire, si vous voulez, que toute honte bue, les députés de la France insoumise vont défiler aux côtés des marches blanches pour Naël, le petit délinquant, la petite racaille, et Traoré, la racaille criminelle. Ils vont aux côtés des familles respectives de ces gens-là. Ils n'ont pas honte, ils y vont l'écharpe tricolore en bandoulière, Pourquoi diable le camp national devrait-il avoir honte d'envoyer ses députés pour pleurer la mort de l'un, de la mort d'un Français? Alors, c'est quand même incroyable qu'en France, il n'y ait pas de honte à avoir à pleurer des délinquants et des criminels, mais quand il s'agit de pleurer un innocent, on vous traite de tous les noms et on vous dissuade d'aller aux marches blanches en son hommage. Hein, c'est quand même, on est chez les dingues. Le fait que Quentin soit une victime qui déplaise à la gauche et que la gauche non seulement ne le pleure pas. Imaginez si on avait dit, et Dieu sait qu'on l'a dit, mais regardez comment la gauche a réagi lorsque j'ai osé monter une cagnotte pour soutenir la famille du policier impliqué dans la mort de Quentin, de Naël, pardon.
Alors, sachez Jean Messia, quand même, qu'il y a une journaliste de Blast qui a proposé de lancer une cagnotte pour les meurtriers supposés de Quentin.
Ben oui, mais ça ne m'étonne pas. Ben quand vous défilez aux côtés, la France insoumise a défilé aux côtés de victimes de la pègre. Ils ont défilé aux côtés de victimes qui sont délinquantes ou criminelles. Donc, pourquoi pas, effectivement, l'étape d'après, c'est peut-être de leur faire une cagnotte. Et vous avez vu que, par exemple, Rachel Keke avait été visiter des racailles en prison.
Oui.
Hein ? Donc, si vous voulez, cette gauche et cette extrême gauche, c'est le camp de l'anti-France. Ils sont du côté de tout ce qui est la France, de tous les pires ennemis de la France. Qu'ils soient délinquants, qu'ils soient criminels, qu'ils soient des haineux de l'idée d'être français, etc., etc. Ils sont de ce côté-là. Donc eux, ils n'ont honte de rien. Et nous, encore, la droite nationale n'a pas les moyens d'user, si vous voulez, de la même intimidation langagière que celle que l'extrême gauche, qui, comme vous l'avez rappelé, est omniprésente dans les médias, etc. Ils ont des relais que nous n'avons pas.
Mais
pour l'instant.
Jean Messier, il nous reste moins de deux minutes. Simplement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de travail de la part de la droite en général, comme le disait Arnaud Stéphan tout à l'heure? Est-ce qu'il n'y a pas un manque général de travail de la part de la droite pour justement parvenir à investir les plateaux de télévision, réussir à créer un discours cohérent et justement à contrer cette contre-offensive de gauche?
Ben, je crois que ce propos est beaucoup moins vrai en 2026 qu'il ne le fut en 2006. Parce qu'aujourd'hui, justement, grâce à Radio Courtoisie, grâce à CNews, grâce à d'autres médias qui de droite, il y a un écosystème, si vous voulez, de médiatique de droite qui, d'ailleurs, connaît des succès d'audience extrêmement encourageants et extrêmement impressionnants, offre aux Français un autre récit médiatique sans doute beaucoup plus proche de la vérité et de la réalité que le récit qui passe sous les fourches codines gauchistes du service public de l'audiovisuel ou d'un certain nombre de chaînes médiatiques classées à gauche. Donc les choses sont quand même, Dieu merci, en train de changer. La droite a aujourd'hui des porte-voix, a des médias radio, des médias télé, des médias sur YouTube, etc., qui permettent effectivement de contrecarrer le récit. Et c'est aussi pour ça aussi que les Français ne sont plus dupes. Quand vous voyez qu'une chaîne comme CNews est la première chaîne d'info de France, c'est que quelque part, la majorité silencieuse ne croit plus les balivernes racontées sur le service public.
Et quand, effectivement, on peut entendre Jean Messia sur Radio Courtoisie, on peut se dire la même chose aussi. Merci beaucoup
Exactement.
D'avoir été avec nous ce matin, Jean Messia. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. On n'a pas eu le temps de parler de l'euthanasie, on essaiera de le faire la semaine prochaine.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Et pour cette chronique, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Blanchard, directeur de l'association SOS Chrétien d'Orient. Bonjour Benjamin.
Bonjour Alexandre de Galzin.
Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler du Liban parce que les négociations sur l'avenir du sud du Liban se poursuivent.
Oui, c'est un serpent de mer. Pour la première fois depuis le 19 décembre, le mécanisme s'est réuni à Ras El Nakoura, qui est le QG de la FINUL. La FINUL, c'est la force des Nations Unies au Liban. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le mécanisme ? Alors, c'est le format, donc ça c'est du jargon diplomatique, le format des réunions pour garantir le respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution adoptée en 2006, pour consolider le cessez-le-feu. Alors, ces réunions se font entre le Liban, Israël et la FINUL. Et ensuite, ce mécanisme a été élargi aux États-Unis et à la France suite au cessez-le-feu de novembre 2024 qui a eu lieu après la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah. Les États-Unis avaient annoncé le mois dernier que le mécanisme se réunirait en février, mars et avril.
Alors, jusqu'ici, tout va bien.
Oui et non. Car jusqu'alors, ces réunions incluaient des civils, notamment Simon Karam. Alors Simon Karam, c'est l'ancien ambassadeur du Liban aux États-Unis, c'est un grand avocat et un diplomate reconnu, très bien introduit aux États-Unis, qui avait été désigné en décembre 2025, donc il y a très peu de temps, comme représentant civil libanais. Or, il était absent à la réunion de mercredi. Alors, apparemment, les États-Unis et Israël refusent une reprise de la participation des représentants civils libanais et israéliens et veulent cantonner les discussions au volet militaire, conduisant à la suspension temporaire de la mission de Simon Karam, pourtant à peine nommé, malgré les demandes répétées du Liban. Selon les sources américaines, cette suspension des civils des négociations est temporaire, en attendant les détails du plan de paix que les États-Unis préparent pour le sud du Liban. Alors, ce plan de paix inclus, je vous le donne en mille, une zone économique spéciale qui serait financée par les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et le Qatar, j'imagine au plus grand bénéfice des entreprises américaines.
Et oui, bien sûr. Et alors, donc, la situation sécuritaire semble quand même plus calme depuis quelques mois.
Oui, en apparence peut-être, mais les tensions restent vives et semblent s'amplifier ces dernières semaines. Alors, la principale inquiétude vient bien sûr des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Tout d'abord, notons qu'aujourd'hui commence le troisième volet des négociations à Genève, donc entre les États-Unis et l'Iran. Ensuite, les Libanais s'inquiètent de possibles répliques du Hezbollah sur Israël si l'Iran venait à être attaqué par les États-Unis. Et à contrario, ils s'inquiètent également des attaques préventives que pourrait faire Israël contre le Hezbollah, sur le Liban. Puis également, il y a une vive inquiétude vis-à-vis de la frontière syrienne, où des combattants islamistes étrangers semblent se regrouper à Al-Qusair. Donc Al-Qusair, c'est une ville syrienne qui est au nord de la Bekaa, donc de l'autre côté de la frontière, et qui, donc ces combattants étrangers qui pourraient profiter de la situation pour entrer dans la Bekaa, ce qui d'ailleurs arrangerait bien le président syrien Ahmed el-Shara, qui cherche à se débarrasser de ces combattants étrangers devenus bien encombrants. Pendant ce temps, la grogne de la population libanaise contre l'augmentation du prix de l'essence et de la TVA s'amplifie.
Alors, outre les incertitudes donc liées au sort réservé au mollah iranien par Donald Trump, le printemps s'annonce quand même chargé au Liban.
Et oui, puisqu'il semblerait que le plan américain prévoirait une conférence internationale à Paris en mars 2026, donc c'est demain, avec l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la France, pour lever des fonds pour équiper l'armée libanaise. Puisque ces pays ont donné pour objectif à l'armée libanaise le déploiement de 9000 soldats dans le sud du Liban, dans le cadre du désarmement du Hezbollah. Ce désarmement, évidemment, suscite l'irritation de l'Iran, qui appelle le Hezbollah à être vigilant, mais l'Iran n'a pas les moyens de faire plus. Bien que l'armée libanaise intensifie ses opérations sur le terrain, Israël poursuit ses violations du cessez-le-feu avec des frappes aériennes répétées contre des présumés dépôts d'armes du Hezbollah. Le gouvernement libanais, bien sûr, condamne ces attaques, et le Hezbollah condamne bien sûr l'inaction du gouvernement libanais. En fond de toutes ces tensions apparaît la préparation des élections législatives qui sont prévues les 3 et 10 mai prochains. Le dépôt des candidatures est en cours et se clôture le 10 mars. Les États-Unis ont redemandé à Nabir Berri, le président du Parlement libanais, de les reporter sine die, ce que Nabir Berri aurait refusé catégoriquement. Alors, je ne sais pas pourquoi les États-Unis veulent les reporter. Peut-être qu'ils attendent la mise en place de la zone économique spéciale. Là, le mystère reste entier.
Oui, avec les Américains, qui sait à quoi s'attendre qu'ils défendent leurs intérêts économiques? Étonnant. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard.
Merci, Alexandre de Gelsin.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Gilles, vous me laissez même pas la primauté du bonjour.
Et voilà, j'anticipe et bonjour Arnaud et bonjour chers auditeurs.
Alors vous voulez nous parler du salon de l'agriculture qui reste ouvert jusqu'au 1er mars, je suis pas encore allé d'ailleurs.
Moi non plus, mais bon.
Alors, on ira ensemble Gilles.
Voilà, on a encore quelques jours. Il faut d'abord lire l'éditorial de Natacha Polony dans le nouveau Marianne qui sort aujourd'hui et qui s'en prend à nos dirigeants qui devraient, selon elle, faire preuve de courage politique et dire nettement que ce qui tue l'agriculture française, cette concurrence déloyale qui met sur nos étals des aliments que les paysans français, eux, n'ont pas le droit de produire, découle d'un choix précis. Alors pour cela, elle donne un exemple flagrant, les cantines scolaires. Eh oui, les cantines scolaires en France servent 7 millions de repas par jour. Imposer la préférence française puis européenne, mais seulement dans un deuxième temps, dans les appels d'offres, ferait vivre toute l'agriculture française. Cela pourrait se faire immédiatement. D'un coup de baguette magique, il serait temps de démontrer aux Français que le rôle de leurs élites est de les défendre et qu'aucun dogme, aucune idéologie ne prévaut sur les intérêts des citoyens français.
Burke, de la préférence nationale, quelle horreur. Il n'y a peut-être pas de vache laitière au salon, mais la filière lait est bien représentée quand même.
Oui, le quotidien Ouest France lui consacre un article et fait le point sur le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, le CNIEL, qui met en avant le triptyque compétitivité, résilience, attractivité. Avec l'objectif à l'horizon 2030 de maintenir une production nationale de 22 à 24 milliards de litres de lait par an pour concilier souveraineté alimentaire et répondre à une demande croissante en produits laitiers au niveau mondial. Pour attirer les candidats et fidéliser tous les métiers de la filière laitière, de l'amont à l'aval, le CNIEL veut lever les freins, le foncier, la pénibilité, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Liste Marie-Andrée Luerne, présidente déléguée, qui souhaite mettre en avant la notion de territoire auprès des jeunes et donner une image moderne de nos métiers, comme elle dit, en parlant de robotisation, de nouvelles technologies, d'IA. Et je vous conseille aussi le livre, je l'ai là sous les yeux, je ne sais pas si Arnaud peut le montrer, un magnifique livre de Nathalie Hellal, Mangeur de lait. Mangeur
alors,
de lait.
Tenez-le, Gilles, pour bien le montrer.
Voilà, aux éditions Ouest France, très illustré, avec de nombreuses recettes faciles à faire et de bons chapitres sur l'histoire du lait depuis l'Antiquité, ses légendes et ses représentations dans la publicité, comme dans la littérature et le cinéma. Alors qu'il soit cru, entier, demi-écrémé, pasteurisé, liquide, crémeux ou battu, le lait enchante toutes les saveurs et elle évoque notamment les vaches. Alors les races à lait, évidemment, il faut séparer les races à lait et les vaches à viande, comme on dit. On les appelle, alors moi, les appelle évidemment, il y a l'abondance qui produit le reblochon ou le beaufort, riche en matières grasses, la montbéliarde qui donne le comté, ou encore la salers avec sa belle robe rouge foncée, connue pour son fromage AOP. Le lait de vache produit 23 milliards de litres de lait répartis entre Bretagne, Normandie et Pays de Loire, principalement, sans oublier le lait de chèvre, 600 millions de litres, principalement en Nouvelle-Aquitaine, et le lait de brebis, 294 millions, surtout en Occitanie. Alors, dans ce studio, il y a un cochon, mais voyez, j'apporte quelques vaches quand même.
J'ai eu peur un instant que vous parliez de moi.
Je n'oserais pas. Je ne vous connais pas assez intimement. Vous pouvez rendre aussi au Salon de l'Agriculture. Alors, vous pouvez donc vous rendre au Salon de l'Agriculture au centre, au stand des Pays de Savoie qui produisent, attention, 38 000 tonnes de fromage AOP ou IGP chaque année, soit 8 grands fromages de qualité, vous pouvez me les citer, Alexandre ?
Oui, au hasard, Abondance, Beaufort, Chevrotin, Reblochon, Tom de Bauge, Tom de Savoie, Raclette et Emmental de Savoie.
Voilà, vous avez vous avez gagné un fromage.
Je vous prends au mot, Gilles, mais alors, on reparle encore maintenant de Jack Lang, fois-ci en une de Valeurs Actuelles.
Oui, alors là, vous pouvez voir la une là, que Arnaud nous montre, le secret honteux de la gauche. Alors, deux grands articles lui sont consacrés dans Valeurs Actuelles, dont celui de Laurent Dandrieux, le mauvais génie de la Mitterrandie, qui rappelle en quelque sorte le thème du livre de Patrice de Plinquet, « Vous étiez trop jeune », c'était sorti en 82, ça s'appelait « La culture en veston rose ». Quand Malraux voyait la culture comme l'héritage de la noblesse du monde, Lang décrète que tout est culture, écrit Dandrieux. Quand Malraux voulait promouvoir Beethoven, mais pas le yéyé, pour Lang, tout se vaut, le rap et Lully, un Véronèse et un homard gonflable de Jeff Koons, une fraise de Frangelico et un tag, Nureyev et le hip-hop. Ouais, oui, Malraux pensait qu'il fallait promouvoir l'art à l'ancienne et que l'art contemporain n'avait pas forcément besoin d'être trop soutenu. Alors, le passage de Jacques Lang, rue de Valois, aura été l'occasion d'un vaste processus de déculturation où la population française aura été privée de la transmission de son héritage culturel au profit d'un interventionnisme étatique qui aura souvent pris les atours de la propagande. Et Barthelet Laurent Dandrieux d'ajouter comme le coup de grâce, déculturation que Lang a aussi accompagné en tant que ministre de la Communication et de l'Éducation nationale, il a été deux fois ministre de l'Éducation nationale, ne l'oublions pas, où il aura poursuivi la politique consistant au nom de l'égalité à tourner le dos à l'excellence.
Très bien écrit. Et alors, dans le Figaro littéraire, Michel Houellebecq est à la une.
Oui, alors Thierry Clermont a lu en avant-première le recueil de poésie « Combat toujours perdant » qui paraît chez Flammarion le 3 mars. Et pour l'auteur des Particules élémentaires, il s'agit en effet d'un retour aux sources, lesquelles remontent à 91 cette année-là, avant même son premier roman « Extension du domaine de la lutte ». Il publie aux éditions de La Différence un ensemble de singulières proses, poétique, au lyrisme noir, manière de manifeste où il déclarait « Le monde est une souffrance déployée ». Et le ton était donné, ce fut là son diapason, en vers comme en prose, dont jamais il ne s'écartera. Cette poésie, Houellebecq l'a également introduite dans ses romans, où le lecteur attentif aura identifié au gré des pages des hémistiches et des alexandrins. Je sais que vous les aimez, mon cher Alexandre. Rappelons pour mémoire le sombre rondeau de Charles d'Orléans, mis en exergue de la carte et le territoire. Le monde est ennuyé de moi, avec un Y, et moi pareillement de lui. Alors s'interroge Thierry Clermont, en bon lecteur, qu'en est-il au juste de la quarantaine de brefs poèmes à lire dans Combat toujours perdant, et dont une dizaine avait déjà été publiée dans la revue littéraire annuelle Kali Yuga en janvier 2025. Sans surprise, le fond du décor est dévasté ou menaçant, la tonalité générale est sombre, l'atmosphère crépusculaire, sans doute davantage que dans les précédents recueils, mais quelques titres glanés au fil des pages en témoignent. Dans un pays à la dérive, triste falaise, non, c'est pas un titre de Sylvain Tesson, En attendant l'envahisseur, fin de partie, tout y respire, l'effondrement de la société et de ses valeurs, la menace, la guerre, la désillusion généralisée et l'illusion du bonheur, l'attente de la mort et l'impossible rédemption. Voilà à lire dans le Figaro littéraire.
Et vous voulez nous parler de Gustave Thibon, penseur et écrivain disparu il y a tout juste 25 ans.
Oui, alors Philippe Barthelet lui rend hommage aussi dans Valeurs actuelles, rappelant que c'est lui qui en 1948 fit connaître l'essayiste Simone Veil avec un W en publiant son livre La pesanteur et la grâce. Et Barthelet s'interroge, qu'est-ce que la philosophie pour Gustave Thibon, ce qu'elle était pour Sénèque ou Marc Aurèle, l'art d'apprendre à mourir. Être chrétien pour lui, c'est refuser les consolations. Seul avec Dieu, c'est-à-dire doublement seul, Gustave Thibon aimait aussi citer la définition du stoïcisme selon Jean Prévost, vivre quand plus rien ne va, comme si tout allait encore. Mon cher Alexandre, chers auditeurs, je vous laisse sur ces bonnes paroles.
Eh bien merci Gilles, mais vous ne nous laissez pas totalement parce que vous restez bien 3 minutes pour la zone libre.
Mais pour vous bien sûr.
Bon, et alors, il n'y a pas de... C'est pas le road jingle, ça y est, l'irrespect est manifeste. Non, plus sérieusement Gilles, vous parliez de Michel Houellebecq, je le trouve assez peu présent sur le dossier de l'euthanasie sur lequel il avait été très très mobilisé
alors,
il y a un an.
Alors je ne suis pas d'accord du tout avec vous, j'ai parlé au moins deux fois de ces déclarations qu'il a faites au cours d'un débat. Le Figaro en a parlé déjà une fois, ils l'ont même aussi, ils l'ont mis à, j'allais dire à l'index au contraire, ils l'ont mis en une du Figaro il y a quelques semaines, justement quand le débat est revenu à l'Assemblée nationale, où il se désolidarisait de ce projet de loi et il soutenait justement les soignants et les médecins qui ne voulaient pas transformer en évidemment complices d'euthanasie. Voilà.
Moi, j'ai trouvé quand même plus présent il y a un an. Alors peut-être que c'est subjectif. Et sinon, encore une fois, étant donné qu'on a un petit peu plus de légèreté quand même dans cette zone libre, vous, qu'est-ce que vous avez lu de Houellebecq? Qu'est-ce que vous avez préféré de Houellebecq?
Alors moi, j'ai pas du tout aimé son premier livre. Alors ça,
Donc les Particules élémentaires.
L'extension du domaine de la lutte qui a été publiée chez un petit. Et moi, je sais pas, ça m'était tombé des mains. En revanche, ce que je peux aimer chez Houellebecq, j'ai pas lu tous ses livres. Oui, dans La carte et le territoire, ce qui était intéressant, c'est que c'était un éloge comme Tesson du paysage, de la géographie, du terroir, des chemins creux, de la relation que l'humain peut avoir avec son environnement, et ça, je trouve ça formidable. Voilà, je pense qu'il est, c'est un très bon observateur, un décrypteur un petit peu de, à la fois de nos âmes, de nos souffrances, de nos douleurs, et aussi de nos côtés sombres qu'on a dans la vie, et qui, pour moi, c'est un pessimiste actif, Houellebecq.
Mais en fait, il y a quand même chez lui quelque chose du décadentiste décadent. C'est ça qui est un petit peu...
C'est-à-dire qu'il n'a pas de tabou. Alors, il peut parler de sexualité comme il peut parler de dérives dans d'autres domaines de la société sans avoir, avoir une économie de mots, vous voyez. En cela, il peut rejoindre certains grands auteurs français. Je pense qu'il est aussi moi je pense que sa littérature c'est à la fois de la psychologie, de l'observation et de la critique. Et en cela, il est vraiment romanesque.
Oui, c'est vrai. Après, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la droite, enfin une partie des gens qui le prennent un petit peu comme une sorte de prophète. Mais je trouve ça.
Il a été prophète sur le grand remplacement, par exemple, ou des domaines où avec subtilité, il explique comment une population peut être remplacée. Bon, ben voilà, c'était après Renaud Camus qui, lui, était plutôt essayiste. Lui, oui. Il en a fait un roman. Et en même temps, il a mis le doigt sur la gâchette, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'était un vivier. Oui. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il avait raison avant. Alors peut-être que dans son prochain roman, d'ailleurs je ne sais pas quand il va le publier puisqu'il a ça toujours sur le feu, il faut dire aussi qu'il sort un disque avec une musique originale et qui parle et qui raconte avec sa voix faible comme ça, un filet de voix sur une musique triomphante.
Et ben, je ne sais pas si ça fait envie aux auditeurs un peu de Michel Houellebecq en musique, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous Gilles Brochard.
À la semaine prochaine.
Et merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Mais avant de vous quitter, nous avons une dernière mission pour vous.
Et quelle mission ? Celle de nous soutenir financièrement. Votre soutien est indispensable à notre survie. Donc je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou bien encore d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. On compte sur vous, merci d'avance.
Voilà, c'est très important pour nous et chers auditeurs. Voilà, maintenant nous allons retrouver François Bousquet qui va nous parler de la rediabolisation des patriotes. Est-ce que le RN fait du bon travail ?
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir François Bousquet. François Bousquet, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors vous êtes rédacteur en chef de la revue Élément, vous êtes directeur aussi de la Nouvelle Librairie. Et nous voulions vous inviter aujourd'hui, c'est parce que vous avez été l'auteur d'un article particulièrement, au titre disons particulièrement provocateur, disons, que je vais donner aux auditeurs. ORN, vaut-il mieux participer à une soirée chemsex qu'à un hommage à Quentin ? Et puis, en fait, c'est cette question qui se pose de la rediabolisation. Selon vous, l'ERN, on a l'impression, en tout cas, irait trop loin dans sa stratégie de dédiabolisation au point de trahir, finalement, son camp historique.
Oui, puis de lâcher en race campagne ses militants. Moi-même étant plus soldat politique du reste que militant, ma hantise, c'est de me retourner sous la mitraille et de voir que mon chef s'est volatilisé. Et ça arrive trop souvent. Le RN a débranché des candidats à Carpentras, quels que soient les tweets ou que sais-je qu'ils ont pu publier. Des candidats à Belfort, là pour le coup, pour des remarques anodines. Hein. À Belfort, c'est un candidat qui avait été investi par le Rassemblement National et qui faisait état sur les listes des décences d'une surreprésentation de patronymes et de prénoms à consonance étrangère. Mmh. Il a été débranché dans la foulée. Et le dernier en date, c'est Vincent Claudin. Alors j'ai écrit cette tribune, ce billet d'humeur, c'est un billet d'humeur, parce qu'il m'a semblé que c'était la goutte d'eau, disons, la façon dont Vincent Claudin a été débranché. J'ai fait ma tribune avant de voir l'article de Mediapart qui lui était consacré, où Mediapart a ressorti un certain nombre de tweets de ce garçon, encore que Mediapart n'est pas en mesure de le prouver, puisque à ce stade, même si Barrot veut mettre au pas les réseaux sociaux, à ce stade, les réseaux sociaux sont anonymes. Donc il est absolument impossible. Et à ma connaissance, Twitter, enfin X, ne met pas à la disposition des autorités françaises ces fichiers de création de compte. Bon, on n'a pas interrogé Vincent Claudin, l'ami de Quentin sur les tweets. Est-ce que c'est lui qui les a écrits ? Bon, on peut présumer que c'est lui, puisque c'est le RN a pris la décision. Mais peu importe, à la limite, c'est pas le plus important. L'important, c'est la stratégie qui est celle du RN depuis quelques années, qui est celle de la dédiabolisation, qui a porté ses fruits, assurément. C'est un parti qui s'est partiellement institutionnalisé, nonobstant le cordon sanitaire lors des dernières législatives, qui a quand même rappelé qu'il y avait des fondamentaux à gauche. À gauche, c'est pas d'ennemis à gauche. Au centre, c'est pas d'ennemis au centre et à gauche. Le RN s'est retrouvé cornérisé. Mais bon, néanmoins, cette stratégie de la cravate a pu porter ses fruits et donner un petit peu de crédibilité. Moi, plus que la diabolisation, c'est la question de la crédibilité qui me semble centrale pour le Rassemblement. national. Hein. Alors tous ces éléments de langage, tous ces éléments de communication, la cravate, etc., ont porté leurs fruits. Mais désormais, me semble-t-il, hein, le RN est dans une stratégie de connivence et non plus de rupture. Hein. Or, si je m'en tiens aux élections de Trump et d'autres, hein, du reste, ce sont plutôt des stratégies de rupture qui ont été les plus fécondes hein, pour porter au pouvoir nos idées au sens le plus large possible.
Hein. Mais François Bousquet, en l'occurrence, ce qu'on observe aussi, c'est que la progression du Rassemblement national ces 20 dernières années, elle s'est surtout faite, c'est même ces 15 dernières années, elle s'est surtout faite par une forme de dédiabolisation, donc par le fait justement de s'éloigner de la radicalité qui était autrefois incarnée par Jean-Marie Le Pen, et on a l'impression que vous rejoignez un petit peu la ligne de Jean-Yves Le Gallou, qui est une ligne pour le coup très militante, on va dire, mais dont les fruits électoraux en tout cas n'ont pas encore été prouvés pour le moment.
Même, non, allons plus loin même. Hein. Les fruits électoraux ont été prouvés. Cette ligne a vocation à échouer si elle est portée par Jean-Yves ou par moi, par définition. Le RN doit être dans une autre perspective. Ce que fait valoir Jean-Yves Le Gallou, c'est qu'un parti sans militants, et c'est un parti qui est en train de se vider de ses militants, on pourra communiquer, le RN pourra communiquer autant qu'il le voudra hein, sur le nombre de gens qui sont adhérents du parti. Ce que pointe Jean-Yves, c'est qu'il faut des militants, des gens qui collent des affiches, hein, des gens qui fassent la sécurité. Il faut des scrutateurs, comme le rappelle en permanence Jean-Yves Le Gallou, il faut des scrutateurs dans les bureaux de vote, hein, c'est-à-dire des gens qui passent leur journée du dimanche hein, à s'assurer qu'il n'y a pas de triche de la part du camp adverse. Hein. Mmh. Est-ce que le RN peut faire l'économie de ça? Non. Je ne conteste pas encore que la normalisation me semble aller un peu trop loin, mais je ne suis pas au RN, simplement un parti ne peut pas accéder au pouvoir hein, sans une base militante. Ça n'est pas possible. Hein. C'est de même qu'il ne peut pas accéder au pouvoir sans s'allier avec d'autres partis politiques. Hein. Donc moi, je pointe simplement à... me semble-t-il, un angle mort du RN qui a tendance hein, à purger et à ne purger qu'une seule ligne, hein, qui est la ligne identitaire, hein, et également la ligne catholique. Hein. Je suis surpris Sébastien Chenu, d'où le titre choisi pour cette tribune, ce billet d'humeur ou de mauvaise humeur, hein, je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas eu de sanctions auprès de Sébastien Chenu, mais le personnage est trop important au sein de l'état-major du RN pour qu'il y en ait, quand il a fait ce lapsus qu'il a abusé quoi, sur les soirées chemsex. Hein. Je ne veux pas être représenté par des gens qui vont dans les soirées chemsex. Hein. Je ne veux pas, c'est du Suétone, hein, c'est les 12 Césars. Hein. Donc je suis surpris que lorsque, c'est le billet était là-dessus, je suis surpris par le deux poids deux mesures, par la géométrie variable des sanctions au sein du RN. Je constate qu'un tweet identitaire vaut, en tout cas, pour le tweet anodin, je le redis à Belfort, le tweet est anodin, c'est anodin. Robert a fait ça dans sa ville, hein. Il a compté sur les listes des naissances, le nom n'est pas trop... C'est ce que fait Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet le fait, c'est ce que fait l'INSEE quand il décompte les prénoms musulmans. À la suite de quoi il a été exclu du parti. Et à côté de ça, je suis surpris par l'extraordinaire hein, indulgence dont fait preuve ce parti pour des soirées chemsex. Hein.
Et alors même, essayons d'aller plus loin justement, mais est-ce que selon vous, le fait de... on a l'impression qu'il y a quand même un traumatisme de la brebis galeuse quelque part. C'est-à-dire que ces personnages qui pourraient être révélés, qui pourraient sortir dans la presse par Mediapart, le canard enchaîné et autres, et finalement ne pas réussir, enfin en fait, devenir des handicaps dans le sens où on peut utiliser ces cas particuliers pour dire « Ah oui, regardez, le RN est nazi, il a investi tel candidat à tel endroit, tel candidat à tel endroit, etc. » Est-ce que dans le fond, il vaut pas mieux purger justement pour parvenir à avoir... à avoir une ligne claire et justement crédible.
Dans tous les cas, le RN sera renvoyé au pavillon des cancéreux. Mmh. Dans tous les cas. À son assignation première qui est le nazisme, qui est le fascisme, qui est l'extrême droite. Hein. Mmh. Dans tous les cas de figure, dans toutes les configurations, le RN sera extrême droitisé. Il me semble que tous ces épiphénomènes sortis par les équipes de Libération, de Mediapart ou de l'Humanité, qui ont des journalistes dévolus à enquêter sur les fils de Twitter ou Facebook ou autres, hein, des candidats RN. Ils ne font ça toute la journée. Il les monte en épingle, avec un effet loupe. Hein. C'est résiduel, c'est marginal. Je pense que ça n'a aucun impact hein, sur les gens qui votent le RN, hein, qui votent pour le RN. Hein. Donc tout ça, ça concerne un micro-milieu, un tout petit milieu. Je rappelle que tous ces journaux, exception en fait de Mediapart, mais pour l'Humanité et pour Libération, je le redis, qui ont des équipes dévolues à l'étude des candidats RN, sur lesquels ils ont matin au soir. Ce sont des journaux structurellement déficitaires, qui ne sont pas lus. Ils ne sont lus, semble-t-il, c'est ce que dit Jean-Yves, hein, que par le RN. Hein. Ce qui fait dire à Jean-Yves Le Gallou que le DRH désormais du RN, hein, c'est Libération. C'est simplement, c'est tout. Je ne crois pas que le RN sera handicapé par quelques brebis galeuses. Hein. En revanche, moi, je pense que le RN sera handicapé par le lissage de tous ces candidats. On n'aura plus que des hologrammes. Hein. À ce stade. Hein. Est-ce que le RN veut des hologrammes hein. Dans le papier, je pointe le vous évoquez ce symptôme de la brebis galeuse, mais il y a également celui du bouton de panurge. Hein. C'est qu'après, on n'a plus que des brebis bêlantes hein, qui sont alignées sur un discours qui est tout à fait lisse. Hein. Et il ne me semble pas que l'opinion attende ce type de discours hein, consensuel. J'ai le sentiment que l'opinion est plutôt dans une perspective de discours disruptif. Hein, que le RN devrait assumer. Voilà, simplement, je ne suis pas, je ne veux pas rentrer, moi, je fais un billet d'humeur hein,
oui.
Sur une affaire hein, qui me semble microscopique, hein, eu égard à la mort de Quentin et à la violence du camp d'en face.
Hein. Bien sûr. Dans 5 minutes, chers auditeurs, nous recevrons Arnaud, Stéphane, je le rappelle, pour parler voilà, du contre-récit de la gauche. Mais François Bousquet, une autre question qui se pose aussi sur ce. Sur ce sujet, c'est quand même, est-ce qu'il est possible que ce lissage excessif des candidats et de la ligne du Rassemblement National puisse mener à une forme de perte des voix, par exemple, des catholiques, ou alors des peut-être des identitaires, ou alors est-ce que ça risque pas finalement de renforcer à la droite du RN un Éric Zemmour ou une Sarah Knafo?
Oui, c'est possible. Hein. Alors, c'est un risque que le RN hein, a anticipé, hein. C'est, puisque Éric Zemmour fait 7% et Marine Le Pen passe au deuxième tour, hein, pas haut la main. Hein. Je veux dire, les marges de Marine Le Pen par rapport à Mélenchon sont assez faibles hein, avec les 7%. Alors, quand je dis qu'il l'a anticipé, bah, c'est l'alliance UDR, c'est l'alliance avec Ciotti. Entre autres, hein, Ciotti est là pour... essayer de capitaliser sur des voix libérales, catholiques, conservatrices, hein, pourquoi pas identitaires, hein, que le RN, sur lesquelles le RN ne pourrait pas capitaliser parce qu'il reste sur sa ligne sociale à laquelle j'adhère, hein, puisque je me semble indispensable. Hein. La nature politique a horreur du vide. Hein. On le voit en Angleterre, les Brexiteurs sont débordés par leur droite. Hein. Il est possible qu'en France hein, émerge une candidature à la droite du RN hein, et qui capitalisera précisément sur le mécontentement et la frustration d'électeurs qui ne se sentent plus représentés, en tout cas qui ne sentent plus leur ligne identitaire représentée. C'est un scénario qui est possible, mais j'imagine qu'au RN, on en a conscience. Hein.
Et on a l'impression que, justement, il y a cette... je ne sais plus qui écrivait que... je me demande si c'est pas François Fillon qui disait que le risque pour Jordan Bardella, c'est la chiracisation. Est-ce que vous aussi, vous partagez cette analyse? Est-ce que vous dites que finalement, si on comprend bien, quoi que le RN fasse, il sera toujours renvoyé à un parti fondé par les Waffen-SS, et qu'au fond, avoir une image propre, nette, ça n'a pas tellement d'intérêt?
Oui, je l'ai dit au préalable, hein, dans tous les cas de figure, le RN, c'est une assignation diabolique. Hein, c'est des mécanismes de causalité diabolique. À la fin des fins, le RN sera en permanence hein, renvoyé à ce que j'appelle, après Solzhenitsyn, le pavillon des cancéreux. Il n'y a aucune chance qu'il n'en sorte. Hein. Donc je crois qu'il faut l'assumer. En sociologie, ça s'appelle le renversement des stigmates. Hein. Donc on assume les stigmates que nous portons et on en fait une force contre-offensive. Hein. Je suis pas d'accord avec l'idée que le RN se chiracise. Je vois rien de chiracien dans le programme du RN. Il me semble que sur la question migratoire, on est aux antipodes, hein, ou les questions sécuritaires, aux antipodes de Jacques Chirac. Hein. Ce que je pointe, hein, moi, c'est ce que je pointe. Après, c'est pas mes affaires. Hein. Je suis pas candidat RN. Hein. Ce que je pointe, c'est le risque de lissage. Voilà, c'est tout. le parti le Front National de Jean-Marie Le Pen, hein, était un parti, alors certes, qui plafonnait à 15-17%, mais où il y avait quantité de profils hors normes, des originaux, etc., avec qui vous faites de la politique. Hein. Mmh. Si à la fin des fins, il n'y a que des hologrammes, hein, si à la fin des fins, il n'y a que des boutons de panurge, hein, on n'ira pas, on sera voué à être déçu. Et l'autre point que je pointe, hein, le RN est censé défendre les Français, et en tout cas les Français qui sont en première ligne. Hein. Et quand il y a un lâchage, quand il y a non seulement un lynchage de militants, Quentin, mais quand il y a un lâchage Clément, comme il y a eu hier, hein, sans jouer sur les mots, bah je m'inquiète. Hein, ce parti qui est censé me défendre, va-t-il me défendre au bout, quoi?
Eh bien écoutez, c'est espérons que, enfin la question se pose en tout cas effectivement, est-ce que le RN est capable de faire ça jusqu'au bout? On n'a même pas abordé, pardon, le sujet de reconquête qu'on aurait pu traiter François Bousquet sur cette affaire aussi, mais merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce matin pour cette analyse et on vous dit à bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette Ligne Droite, cette nouvelle matinale que vous aimez tant. Et puisque vous l'aimez tant, eh bien, il va falloir nous donner un petit coup de pouce pour qu'on puisse continuer à la voir.
Soutenez-nous financièrement en nous faisant des dons sur soutenir.rc.fr, ça c'est pour les dons en ligne. Et puis de manière plus classique, envoyez-nous vos chèques à Radio Courtoisie, soit 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. On compte sur vous, merci d'avance.
Voilà, on sait qu'il y a seulement, je crois, 2% des auditeurs qui font un don. Si vous étiez plus, imaginez tout ce qu'on pourrait faire de plus, toutes les émissions qu'on pourrait avoir. Mais on a déjà des émissions, cela étant, qui sont de très bonne qualité et qui vont passer aujourd'hui.
Et les émissions du jour, effectivement, tout à l'heure, à midi, en direct, le Libre Journal des Entrepreneurs dirigé par Louis Laboca et Hugues Sérapion, l'Odyssée d'un océanographe. À 14h, le Libre Journal des Traditions de l'abbé Alain Laurence, Parcoursup, comment s'y retrouver. Et puis un second sujet, actualité géopolitique, Iran, États-Unis, Gaza. À 17h, sur Sursum Corda de l'abbé Mathieu Raffray, consacré cette semaine au sacrement de l'ordre. 17h30 en direct, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Hainaut. À suivre également en direct sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie et sur X. À 19h30, le Libre Journal de Jacques Trémollet de Villers, dirigé en direct par Hilaire de Crémier. Actualité budgétaire, financière, économique et politique avec considération philosophique. Et puis enfin ce soir, et toujours en direct à 21h30, le Libre Journal des Chevaux Légers de Luc Le Garsmeur.
Superbe programme. Et moi, chers auditeurs, je ne vous dis pas demain parce que je serai en reportage. C'est à ça aussi que servent vos dons. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
À demain.